Voici les informations. Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous reviendrons sur les résultats du Super Tuesday aux États-Unis. Ils sont tombés cette nuit. Le duel de novembre devrait être celui de 2020, Donald Trump contre Joe Biden.
Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était hier en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. La Turquie tente d'exercer son influence.
Jusqu'à 150 euros de plus par mois pour les personnels de la petite enfance. Le gouvernement incite les crèches à les augmenter, mais sous quelle forme? Est-ce suffisant? Les détails à suivre.
Et dans un quart d'heure, le billet politique de Jean Lémarie après les heures à Cachan, la violence a-t-elle un sens?
La victoire de Joe Biden est annoncée dans tous les États concernés par le Super Tuesday. Donald Trump, lui aussi, remporte largement ce rendez-vous important des primaires aux États-Unis avant la présidentielle de novembre. Mais l'ex-président sait déjà qu'il ne réalise pas le grand chelem, puisque le Vermont lui échappe au profit de Nikki Haley, rivale de Donald Trump chez les Républicains. Et si ses victoires sont maigres à côté de celles de l'homme d'affaires, l'ancienne ambassadrice à l'ONU s'est maintenue jusqu'ici dans la course, Sébastien Paour.
C'est le Vermont qui empêche Trump de rafler les 15 États en jeu. L'État du Nord-Est devrait être le seul remporté par Nikki Haley. À elle le calvaire, à lui le super mardi. Trump est donné gagnant dans au moins 12 États sur 15. Il s'impose en Virginie et en Caroline du Nord où les sondages hésitaient pourtant entre les deux. Défaite annoncée aussi pour l'ancienne ambassadrice à l'ONU dans le Tennessee et en Alabama, à chaque fois de plus de 60 points. Trump décroche les grands États comme le Texas et la Californie et les autres, du Maine au Colorado. Il parle d'une soirée formidable et appelle Nikki Haley, sans la nommer, à l'unité. Nous avons un grand parti républicain avec d'immenses talents. Et nous voulons l'unité. Et nous allons l'avoir très rapidement. Parce que le 5 novembre est tout proche. L'unité ne se décrète pas, répond l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Pour elle, beaucoup d'électeurs républicains ont exprimé de profondes réserves vis-à-vis de lui. Elle ne s'est pas encore officiellement retirée de la course.
Sébastien Paour, un sujet s'est évidemment imposé dans la campagne américaine, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Voilà presque 5 mois qu'elle dure. Il faut faire rentrer plus d'aide dans l'enclave. Il n'y a pas d'excuse, a dit à nouveau Joe Biden hier à l'intention d'Israël. Et pour parler de l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants, ainsi que des négociations pour un cessez-le-feu, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a reçu hier à Ankara le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La Turquie suit de près les pour parler inter-palestinien. À Istanbul, Anne Andlauer.
À défaut de jouer les médiateurs entre Israël et le Hamas, ainsi qu'il l'avait proposé au tout début de l'offensive à Gaza, Recep Tayyip Erdogan tente de relancer ses efforts déjà anciens pour réconcilier les différentes factions palestiniennes, notamment les rivaux du Hamas et du Fatah. Point fort de la Turquie dans cette équation aux acteurs multiples, sa proximité avec la branche politique du Hamas à Gaza et ses bonnes relations avec l'autorité palestinienne menée par le Fatah en Cisjordanie occupée. Aux côtés du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le chef de l'État turc a une nouvelle fois plaidé pour la réconciliation et proposé ses bons offices.
Nous suivons de près les efforts mis en œuvre pour atteindre l'union et le consensus entre nos frères palestiniens. À ce stade, l'une des meilleures réponses à la cruauté d'Israël serait l'union et l'unité des Palestiniens. Nous serons toujours prêts à prendre nos responsabilités pour y contribuer.
Recep Tayyip Erdogan a proposé plusieurs fois d'accueillir une conférence internationale pour des pourparlers interpalestiniens. Mais le président turc ne semble pas avoir la confiance de tous les groupes palestiniens. L'Égypte ou l'Algérie, entre autres, pourraient être mieux placés pour cette tâche. Ces derniers jours, c'est la Russie qui a réuni sur son sol des dirigeants du Hamas, du djihad islamique, du Fatah et d'autres mouvements palestiniens. Le rôle de la Turquie pourrait donc se limiter à jeter les bases des négociations entre le Fatah et le Hamas. L'objectif de Tayyip Erdogan est notamment de transformer le second en un groupe semblable au Fatah et de l'éloigner de l'axe Iran-Syrie. Un plan très ambitieux que la guerre à Gaza a rendu encore plus compliqué.
Et ce matin, les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est et d'Australie appellent à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza et qualifient la situation humanitaire dans le territoire palestinien de désastreuse. Nous vous en parlions hier dans ce journal. Les députés chinois sont réunis en session annuelle et tout au long de la semaine, ils vont examiner des dizaines de propositions pour façonner la future société chinoise, souvent très conservatrice. Parmi elles figure la congélation d'ovocytes pour les femmes célibataires. célibataires. Aujourd'hui, seuls les couples mariés et souffrant d'infertilité y ont accès. Ce texte n'est pas encore approuvé, mais c'est déjà une victoire pour cette jeune femme que vous avez rencontrée à Pékin, Sébastien Berriot. Elle s'est lancée dans une longue bataille judiciaire pour obtenir ce droit.
C'est l'une des causes de la baisse de la natalité en Chine. Beaucoup de femmes pensent avant tout à travailler avant de fonder une famille. C'est le cas de Zhao Zhao, cette webmaster célibataire de 36 ans, se bat depuis 2018 pour pouvoir congeler ses ovocytes.
Quand j'avais 30 ans, je voulais vraiment privilégier ma carrière professionnelle. Et en même temps, ma famille me mettait la pression pour que je ne rate pas le meilleur âge pour avoir des enfants. Mais je n'étais pas prête à prendre la décision d'en avoir ou pas. Alors j'ai souhaité prolonger l'âge de la procréation pour avoir plus de temps pour faire un choix.
Zhao Zhao s'est d'abord heurtée aux hôpitaux, puis à la justice qui lui refuse le droit à des techniques pourtant bien maîtrisées en Chine. Mais la jeune femme a osé s'exposer et revendiquer.
Si mon cas peut attirer l'attention de la société sur cette question, ça permettra aux décideurs politiques de prendre conscience des besoins des femmes célibataires. Les ovocytes font partie de mon corps, ça devrait être un choix libre pour moi. Je veux garder cette possibilité d'avoir des enfants plus tard.
La jeune femme attend désormais une décision de justice en appel. Sinon, explique-t-elle, je partirai à l'étranger pour faire congeler mes ovocytes.
La communauté internationale s'inquiète des violences en Haïti. Si Ariel Henry ne démissionne pas, nous allons tout droit vers une guerre civile. A même lancé hier un chef de gang influent. Les bandes armées qui ont pris le contrôle de pans entiers du pays, y compris de la capitale, attaquent depuis plusieurs jours des sites stratégiques. Ils disent vouloir renverser Ariel Henry, premier ministre contesté au pouvoir depuis 2021. Il aurait dû quitter ses fonctions le mois dernier.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi des commémorations des 80 ans de la Libération.
Oui, le président vient de publier une vidéo sur Internet et il lance plusieurs initiatives, notamment une collecte de témoignages, des photos, des films, des journaux personnels. Si ces documents aujourd'hui précieux sont à l'abri chez des particuliers, ces derniers peuvent se faire connaître. Il y aura donc, à l'occasion de ces 80 ans, de nombreuses cérémonies dès le mois prochain, avec en point d'orgue celle du débarquement début juin, à quelques jours, il ne faut pas l'oublier, des élections européennes, Rosalie Lafarge.
Et déjà ce matin, Emmanuel Macron y fait référence. Rappelons-nous que la construction européenne est le fruit de la libération de l'oppression. Soyons dignes de cet héritage en sachant renforcer notre Europe, plaide le président. C'est l'un des axes principaux de son camp pour ces élections. Le besoin de plus d'Europe, d'une Europe plus forte. Confrontation directe avec le RN, accusé par la majorité de vouloir, à l'inverse, démanteler le projet européen. Dans ses vœux, le 31 décembre, Emmanuel Macron avait déjà fait des 80 ans de la libération et du débarquement l'un des grands rendez-vous de l'année. Il y livrera sans aucun doute quelques messages. La mémoire est toujours affaire d'actualité, souligne ainsi l'Élysée. Et si de nombreuses cérémonies sont prévues dans les prochains mois, celle début juin en Bretagne et Normandie s'annonce comme le moment fort de tout ce cycle. Plusieurs événements sur 3 jours, dont une cérémonie internationale le 6 juin à Omaha Beach dans le Calvados avec près de 200 vétérans et plusieurs chefs d'État invités autour du maître de cérémonie Emmanuel Macron. Le président qui aura déjà pris la parole la veille, le 5, à Saint-Lô dans la Manche, très lourdement bombardé en 1944, et qui la reprendra le lendemain, le 7, à quelques kilomètres à Bayeux et Cherbourg, autre lieu clé de la libération. Il ne sera pas question d'entrer dans des polémiques pour chaîne d'infos en mal de buzz, insiste déjà l'Élysée, mais un des proches du président ne l'imagine pas se priver d'une si belle tribune à 2 jours du scrutin européen et à quelques minutes, pour ce qui est du vendredi 7, du début de la période de réserve qui impose au sujet des élections un temps mort politique et médiatique.
326 000 spectateurs, c'est la jauge fixée par les autorités pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, cette parade sur la Seine le 26 juillet prochain. 326 000 dont une majorité de places gratuites sur les quais hauts. Les heureux élus seront choisis par l'État, les collectivités publiques ou le comité d'organisation. Reste 100 000 places payantes sur la partie basse des quais. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé hier le dispositif de sécurité. À quelques mois des Jeux, la mairie mairie de Paris. L'hôtel de ville et des annexes ont été perquisitionnés hier. Cela fait suite au Tahiti Gate, la polémique sur le voyage de la mère Anne Hidalgo en Polynésie française. Une enquête préliminaire a été ouverte en novembre après la plainte d'une association anticorruption pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics et après aussi les signalements de plusieurs élus. Pour rendre les métiers de la petite enfance plus attractifs, le gouvernement veut inciter les crèches à faire un geste pour leur personnel. 100 euros net pour les salariés du public, 150 euros pour ceux du privé. Annonce faite hier par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée, elle, de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Les détails avec Nouran Mahmoudi.
Pour le moment, seulement les salariés des établissements dits d'accueil du jeune enfant et bénéficiaires de la PSU pourraient bénéficier de cette revalorisation. PSU, c'est la prestation de service unique, une aide de la CAF versée à ces structures. Il y en a environ 17 000 en France, cela inclut les crèches, les micro-crèches et les haltes garderies, secteur privé et public confondus. En tout, le ministère estime que 150 000 salariés pourraient être concernés par cette revalorisation. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que cette revalorisation ne sera pas prise en charge dans sa totalité par l'État, seulement à hauteur de 66%, le reste sera à la charge de l'employeur. Du côté du secteur public, pas de souci. Les collectivités territoriales prendront en charge les 33% restants de cette revalorisation. En revanche, tous les établissements privés ne sont pas concernés, car pour le moment, une seule branche professionnelle a signé un accord entérinant cette augmentation, mais d'autres sont encore en cours de négociation. Hier, la ministre a également réitéré les promesses faites par Elisabeth Borne il y a 9 mois, la création de 200 000 places supplémentaires d'ici 2030, dont 30 000 en crèche.
Un trop petit geste, considère le SNPPE, le syndicat national des professionnels de la petite enfance, dans un métier où le personnel manque, explique Véronique Escamès.
Le compte n'y est pas. Nous, on demande environ 300 euros net par mois pour rattraper le salaire médian français. On voit de plus en plus de structures qui sont obligées de soit diminuer leur amplitude horaire, soit diminuer le nombre d'enfants accueillis, les conditions de travail, la pénibilité qui n'est toujours pas reconnue. On est perpétuellement en tension. Hein. Dès qu'une collègue est absente, bien souvent, il faut changer nos horaires du jour pour le lendemain. Puis, des situations où on n'arrive pas à répondre de manière satisfaisante aux besoins des enfants. Quand vous avez 5 bébés à faire manger, qui ont tous faim au même moment, qui sont tous fatigués au même moment, c'est impossible, même avec la meilleure volonté, de pouvoir répondre à leurs besoins. Un bébé, ça ne fait pas attendre. Quand il a faim, c'est maintenant et tout de suite. Quand il est fatigué, c'est maintenant et tout de suite. On est obligé de faire au mieux, au plus rapide. Donc on continue à revendiquer une reconnaissance adéquate de notre travail avec des augmentations significatives qui reflètent notre engagement et notre contribution.
Véronique Escamès du SNPPE, des propos recueillis par Nouran Mahmoudi. Les femmes à la télévision et à la radio parlent moins que les hommes malgré une présence qui s'est améliorée au fil des ans. C'est ce qu'a constaté l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, dans son 8e rapport annuel sur la représentation des femmes à l'antenne, Pierre Roper.
Le nombre de femmes à la télévision et à la radio augmente, mais très lentement. Depuis 2016, la part des femmes en plateau est passée globalement de 38 à 43%, un chiffre qui stagne depuis maintenant 2 ans. À l'heure actuelle, la parité en plateau ne concerne que les présentatrices, alors que les journalistes, les chroniqueuses, les expertes ou encore les invités restent minoritaires à hauteur de 41%. Surtout, le temps de parole des femmes, lui, a régressé en 2023. Évalué à 34%, il a perdu 2 points. En l'espace d'une seule année. Le fossé est particulièrement important pour les femmes politiques. Elles parlent en moyenne 3 fois moins que les hommes. C'est également entre public et privé que l'écart se creuse. Dans l'ensemble, le service public présente plus de femmes et elles disposent de plus de temps de parole. Les mauvais élèves restent cependant les programmes sportifs. Les femmes y sont encore largement minoritaires en plateau, avec à peine 1/5 des effectifs, une proportion qui diminue encore lorsqu'il s'agit d'un sport masculin. Le rapport de l'ARCOM s'accompagne de nombreuses préconisations. L'autorité de régulation souhaite également à l'avenir, réaliser une étude sur la représentation des femmes et des hommes dans les programmes de fiction.
Pierre Roper. Le temps s'améliore aujourd'hui. Les nuages devraient se dissiper au fil de la journée, sauf en Bretagne et dans l'est de la France. Les températures 8 degrés, pas plus cet après-midi à Metz comme à Amiens, 11 à Paris et Lyon, 13 degrés à Toulouse et Nice. Et puis toujours la Charente-Maritime en vigilance orange au cru.